Au Capidance, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, ok, dit l'accord cadre d'Addis Abeba sur la promotion du développement économique de la RDC. Promouvoir les développements économiques, y compris l'expansion des infrastructures et la fourniture des services sociaux des bases, constitue le quatrième engagement auquel a souscrit la RDC dans l'accord cadre d'Addis Abeba, accord signé au mois de février 2013 par 11 pays de la sous-région des Grands Lacs sous l'égide de l'ONU. Alors quel bilan faire à ces jours? Alors, en ce qui concerne la promotion du développement économique de la RDC, nous recevons aujourd'hui John Gomboa, chargé des communications, mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. John, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Johnny.
Alors, quel bilan peut-on faire aujourd'hui sur l'engagement numéro 4 hein?
Bon, d'abord, avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que l'engagement numéro 4 a été bien entendu précédé par les trois autres. Le premier étant continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. Le deuxième, consolider l'autorité de l'État, en particulier dans l'est de la RDC, y compris en effectuant les groupes armés, en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, c'est donc le troisième. Et bien entendu, le quatrième, c'est la promotion du développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux des bases. Je tiens à remercier les directeurs des cabinets, Gérard Toumba Kaniki, directeur des cabinets de François Mamba, qui m'a donc donné l'opportunité aujourd'hui d'entretenir les auditeurs des radios de Capi et tous les Congolais, bien entendu, sur cette question. Alors, comme on ne l'aura peut-être pas constaté, je dis... Tous ces engagements se tiennent dans une logique. Tous ces engagements se tiennent dans une logique. Je voudrais ici signaler que autant la guerre naît dans les esprits, comme on dit, la guerre naît dans l'esprit, et c'est dans l'esprit qu'il faut combattre la guerre, autant le conflit dans la région des Grands Lacs a une grande dimension économique, a même une motivation essentiellement économique, et c'est en décelant cette motivation, les causes qu'on peut mettre définitivement un terme à cette guerre, donc à ces conflits. C'est ainsi donc qu'en 2014, donc exactement le 14 janvier, les 13 signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba se sont retrouvés.
Ils sont 13 et non 11.
Non, c'était 11 plus 2.
Plus 2, d'accord.
Oui. Donc, ils se sont retrouvés à Luanda pour se convenir d'un dernier levier pour faire avancer l'accord cadre. Comme disent les Anglais, last but not least, les derniers mais pas le moindre, ces leviers, c'est les leviers économiques. Et en réalité, quand vous regardez, vous vous rendez compte que dans la nomenclature, l'accord cadre pour la paix, la sécurité, ça se termine par la coopération. Donc, l'objectif de cet accord cadre, c'est pour faciliter les échanges commerciaux, pour promouvoir les développements de la région des Grands Lacs.
Alors, mais qu'est-ce qui a été dit exactement sur les développements économiques de la RDC?
Oui. En fait, c'est pas uniquement la RDC, mais cet accord, en fait, permet le développement de toute la région. Ce n'est pas seulement un pays. Il y a dans la sélection, je vais y arriver, des projets issus de cet engagement-là. un certain nombre de projets qui ont été simplement sélectionnés parce que ils sont transversaux. C'est-à-dire, les projets ne peuvent pas concerner un seul pays. Il faut au minimum 2 ou 3 pays. Donc, et ça c'est au terme de la réunion qui a suivi donc le 14 janvier 2014 à Luanda. Alors,
qu'est-ce qui a été dit exactement sur le développement économique de la RDC et des autres pays de la région?
Oui, j'y arrive. Mais oui, je voudrais vous donner quelques chiffres, je dis.
Oui.
En ce qui concerne la région des Grands Lacs, avant d'arriver à ce qui a été dit, il faut retenir que la région des Grands Lacs est composée des 13 pays. 350 millions d'habitants, 1,1 milliard de dollars en PIB, 10 829 106 km² de superficie. Donc ce qui est un espace autant grand ou plus grand que les États-Unis d'Amérique. Et donc comporte beaucoup d'opportunités. Et la République démocratique du Congo se trouve au cœur de cette région et même au cœur de toute cette stratégie. Je voudrais aussi vous rappeler, vous avez certainement suivi dernièrement, le mardi dernier, la Population Reference Bureau qui souligne dans ses projections publiées que d'ici 2050, la population de la République démocratique du Congo sera multipliée par 2,5. Donc on sera le 9e pays le plus peuplé du monde avec 190 millions d'habitants.
Donc, mais actuellement, on parle des 60 millions.
Oui.
On est autour des 60 millions d'habitants.
En 35 ans. Mmh. Permettez-moi encore d'indiquer avec François Mamba que, en fait, tout cet accord, on va le dire même de manière triviale, c'est pour dire non, écoutez, il ne faut plus venir avec des kalachnikovs pour pouvoir extraire les coltans ou toute autre richesse de la République démocratique du Congo, mais maintenant, il faut le faire selon une procédure convenue par tous, y compris les pays voisins de la RDC qui ont, comme vous le savez, aussi les ambitions sur notre richesse.
Alors nous savons, John, que toutes ces guerres que nous avons à l'est du pays, par exemple, ces rébellions qui naissent à tout moment, c'est pour des raisons économiques.
Oui, bien entendu. Il y a eu un document qui a été subséquent à cette réunion des signataires qu'on appelle les DOI, les documents des opportunités et investissements dans les Grands Lacs. Ces documents reconnaissent que, je vais les citer, dans la mesure où l'essentiel du conflit dans la région a été lié aux ressources naturelles et aux industries extractives, les renforcements du partenariat public-privé dans ce domaine et la promotion des pratiques commerciales responsables, la valeur ajoutée et la durabilité de l'environnement permettront la réalisation des objectifs de l'accord cadre. Donc on peut dire que aujourd'hui, concrètement, je ne voudrais pas avoir une approche chauviniste et singulière en disant d'abord la RDC. Non. En fait,
il faut voir la région dans son ensemble.
Effectivement, il y a un certain nombre de projets. Ils sont partis des 403 projets pour en retenir 24 projets qui vont être lancés à la faveur du forum sur les investissements privés.
Vous pouvez citer quelques projets rapidement qui ont été élaborés.
Oui, j'essaie de le trouver de manière plus précise, mais il faudra d'abord dire que en ce qui concerne les plus importantes résolutions, donc nous avons ce forum qui a été retenu comme étant un point clé qui est aujourd'hui dans la perspective renvoyée au mois de février de l'année prochaine. Et donc, autour de ces forums, nous allons aussi indiquer le fait qu'il y a une conférence sur les développements de la région. Alors, en ce qui concerne certains projets de manière indicative, il y a dans les domaines de l'agriculture, les développements des marchés transfrontaliers, les corridors sud pour la croissance agricole tanzanienne, la réhabilitation du complexe agro-industriel de Nzara, le pôle régional pour la croissance intégrée de la plaine de la Ruzizi, la programmation, le programme de soutien au processus d'intégration régionale de la CPGL, chaîne de valeur régionale du maïs, le projet de céréales et de semences AFSA, SAB, Miller, les infrastructures rwandaises d'entrepôt en douane aux frontières des Gisenyi et des Ruzizi, et dans le domaine de l'énergie, parce que ce projet sectoriel s'étale sur sept domaines en fait. Vous avez l'agriculture, l'énergie, les finances, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les domaines miniers et le tourisme. Alors, en ce qui concerne les domaines énergétiques, il y a le projet hydroélectrique Ruzizi 3, il y a le projet de gaz méthane du Rwanda et de la RDC, il y a la réhabilitation de Ruzizi 1 et la réhabilitation de l'implantation des lignes de transmission. Et dans le domaine des finances, il y a la création de la société financière et d'investissement des pays des Grands Lacs africains. Il y a la banque de développement des États des Grands Lacs, la BDGEL, qui a plus ou moins déjà existé. Dans le cadre de technologie de l'information et de la communication, il y a le projet Central Africa Backbone. Et dans les domaines des infrastructures, les projets d'installation des stations le long de la route du corridor nord, les corridors de l'Obito, les projets du corridor du sud, les postes frontières de la CPGL à visa unique, les ports de l'Amou et le couloir de transport entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie, les ports maritimes de Kisumu et autres ports sur les lacs Victoria, Brazzaville, Congo-Kinshasa, RDC, et projet route rail. Là, c'est avec Brazzaville. Et toujours avec le Brazzaville, je l'ai dit tout à l'heure, le projet route rail pont ici sur le pôle Malébo. Et dans le domaine minier, la raffinerie de pétrole de l'Ouganda, la chambre des fédérations du Sud Kivu, donc c'est dans le domaine minier aussi. Et enfin, dans le tourisme, les plans de tourisme viables des l'IGAD et les et villes balnéaires sur les lacs Kisumu au Kenya. Donc ce sont les 24 sur les 403. Et comme on peut le constater, c'est généralement des projets qui associent au minimum deux États, qui concernent au minimum deux États. C'est là, c'est pour faciliter l'intégration, la circulation des personnes et des biens et les opérations commerciales.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des progrès significatifs qui ont été enregistrés par rapport au développement économique de la RDC?
Bon, oui, je crois que la ligne rouge aujourd'hui, les fils rouges, en fait, qu'on doit suivre par rapport à ça, c'est le forum sur l'investissement public-privé. Ce forum sur l'investissement public-privé, qui est prévu au mois de février l'année prochaine, va impacter la République démocratique du Congo. Déjà qu'il se tient en RDC, et c'est là le gouvernement congolais a obtenu que, étant au cœur de ces dispositifs, il va de soi que ces forums se tiennent à Kinshasa. Et donc, ce forum va impacter des projets qui concernent la République démocratique du Congo. Je crois que dans les domaines divers, tourisme, énergie, le gouvernement est en train d'apprêter les projets sectoriels qui vont être en ce moment-là présentés aux investisseurs privés. C'est ça l'intérêt, en fait. Hein.
Mais quelles sont les avancées significatives qu'on peut retenir en RDC aujourd'hui par rapport au développement économique?
Non, mais vous savez, l'économie, c'est quand même un processus assez laborieux. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, même dans l'agriculture, il faut minimum 3 à 6 mois pour obtenir des résultats. Et encore, c'est peut-être des bourgeons, mais si pour avoir les fruits, il faut un peu plus du temps. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a maintenant des choses concrètes, mais j'ai dit qu'il y a un fil rouge, c'est-à-dire nous nous projetons à l'année prochaine, 2016, mois de février.
Oui.
C'est au cours de ces mois-là que concrètement, tous les projets qui concernent la RDC seront présentés aux investisseurs privés pour pouvoir y mettre les financements nécessaires. Donc, je crois que ça sera un moment critique pour passer, parce que maintenant, les projets se préparent.
D'accord. On va accueillir Félicien Kindoula qui nous appelle de Kinshasa. Vous voulez également participer, appelez au 081-890-63-94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, hors de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Que dit l'accord cadre d'Addis Abeba sur la promotion du développement économique de la RDC? Félicien Kindoula, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute Félicien.
Mais quand les Congolais parlent de l'accord d'Addis Abeba, j'ai l'impression qu'ils vantent ça comme si c'était un intérêt pour la République démocratique du Congo. Mais à mon avis, je trouve que nous n'avons rien gagné dans cet accord. Parce que je ne peux pas comprendre que les chefs d'État réunis, tous ces États réunis là-bas, ont répondu que les guerres que nous avons à l'est du pays, c'est essentiellement à cause des non-richesses qu'on vient nous combattre. Ce qui veut dire que ce sont nos voisins qui viennent nous faire la guerre pour avoir nos richesses. Mais ils n'ont jamais été condamnés pour leur dire comment ils pouvaient venir nous agresser. Nous avons eu des milliers de morts, on n'en a pas parlé. Et on dit non, on va trouver une formule comment exploiter les richesses du Congo ensemble avec tout le monde et tout ça. Et on n'a jamais expliqué aussi comment une rébellion en réalité qui est rwandaise comme la ADF Nalu, il doit faire la guerre au Rwanda pour attaquer le gouvernement rwanda parce qu'il se doit se soulever son gouvernement. La LRA doit se soulever contre le gouvernement soudanais. Les FDLR doivent se soulever contre le gouvernement rwandais. Mais ils ne vont pas faire des incursions dans ces pays-là où ils doivent déstabiliser ces gouvernements pour les remplacer. Mais c'est les Congolais qui les tuent, qui les pillent, qui les violent. Et tout se fait au Congo. Et alors on appelle ça les rébellions de ces pays-là. Mais en quoi est-ce que ces pays-là peuvent sentir, comment est-ce qu'ils peuvent sentir les effets de leur rébellion alors que c'est nous qui les sentons? Et à Addis Abeba, on n'a même pas fait cas à ça, on n'a pas demandé à ces gens-là de cesser d'agresser la République du Congo, mais on nous demande seulement l'intégration régionale, et nous allons appeler des investisseurs, nous allons partager les richesses du Congo, alors qu'il y a d'autres pays, comme l'Angola, qui ont aussi des richesses, comme l'Afrique du Sud, qui ont aussi des richesses comme nous, mais eux, leurs richesses, c'est pour eux, mais pour nous, 6 millions de Congolais sont morts à cause de ces richesses. Et nous trouvons que c'est dans notre avantage cet accord. Moi, je n'ai jamais été de cet avis-là.
Merci. Félicien n'a jamais été d'accord avec cet accord qu'on est en train d'inventer, alors que, d'après lui, ce sont les mêmes pays signataires, les voisins, qui viennent pour piller les ressources économiques de la RDC et, à l'occasion, à causer la perte, des pertes en vies humaines importantes. John, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Voilà. Félicien demande d'abord si cet accord a un intérêt pour la RDC. Oui, je voudrais rappeler entre autres que c'est suite à la signature de l'accord que la guerre du M23 a été notamment arrêtée, vous vous rappelez, à Goma. Donc c'est quand même un fait majeur. Nos voisins ne respectent pas, en tout cas nos voisins sont concernés parce que au-delà de six engagements qui concernent en interne de la RDC, il y a sept engagements régionaux. Entre autres, il leur est demandé aussi de ne pas entretenir des mouvements qui déstabilisent et la RDC et d'autres États. Alors, à Addis Abeba, effectivement, il a été demandé aux États de la région de ne pas entretenir un climat délétère. Mais voyez-vous, nous sommes ici dans un domaine diplomatique et dans lequel il n'y a pas d'injonction à donner aux États. Il y a une procédure et, sur laquelle on parvient à créer une dynamique et c'est cette dynamique qui finalement guide les signataires. Donc il n'y a pas, comme c'est des relations entre État et État et dans une sous-région, il n'y a pas, j'allais dire, un État fort qui se soulève et dit bon écoutez, vous allez faire ma loi. Donc voilà, nous sommes retrouvés plongés dans un conflit. C'est vrai, aujourd'hui, je suivais sur l'agence congolaise de presse un général des FARDC qui dit que depuis plusieurs mois maintenant, il n'y a plus aucun mouvement armé rebelle
à l'est du pays.
Oui, oui, interne ou extérieur qui peut faire face à la force des FARDC. Et il faut reconnaître aujourd'hui quand même qu'il y a des progressions. C'est vrai que nous venons de loin, mais aujourd'hui les M23, on n'en parle pas. Les ADF Nalou, ils sont restés à un niveau embryonnaire et voilà. Donc les FDLR sont cantonnés. Je peux dire que il faut aussi voir les choses, les verres à moitié remplis.
D'accord. Serge Mapenda, on nous a écrit depuis Lubumbashi. Il dit, certes, il y a certains efforts du gouvernement consentis dans la promotion du développement économique, mais beaucoup reste à faire pour concrétiser cet engagement pris dans l'accord cadre. Je voudrais, par cette occasion, plaider pour que l'État congolais et la communauté internationale s'investissent davantage dans ces secteurs, notamment à l'est du pays. L'exemple du Nord Kivu, où l'extrême misère de la population longtemps meurtrie par la guerre s'est fait sentir encore, y compris les taux élevés de chômage de la jeunesse. Ainsi, en ces jours, il est hyper important de redoubler les financements du Fonds pour la consolidation de la paix et le Fonds social de la République en y intégrant un fonds spécial d'encadrement et promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse, financer plus de projets de développement communautaire. Voilà quelques pistes pouvant aussi aider à briser les cercles vicieux des groupes armés. Nous allons accueillir aussi Jean Dambosch de et Archange des Kikwit. Jean, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour aussi à l'invité ainsi qu'à tous les milliers des auditeurs de la radio Kati.
Quelle est votre préoccupation, Jean?
Voilà, je voulais demander à l'invité ceci. 6 février 2013, lors de l'élaboration de cet accord d'Addis Abeba, comment est-ce que l'invité peut nous décrire l'impact de ces accords sur les vécus quotidiens de la population congolaise depuis l'élaboration de cet accord? Est-ce qu'il peut nous dire réellement si cet accord jouit de sa force d'application sur la population, avec toutes les guerres qu'on a connues, des atrocités et autres? Voilà ma question.
Bien. Archange de Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je vais presque aborder dans les mêmes sens que mon prédécesseur, l'intervenant de Kinshasa. Je ne pouvais pas comprendre que nous partageons le même frontière avec différents pays. Et il n'y a pas que nous qui sommes riches, il y a aussi l'Angola, comme vous venez de le dire, les prédécesseurs, il y a aussi l'Afrique du Sud. Mais par rapport aux accords, il faut bien d'avoir des accords pour la paix dans notre pays. Mais qu'est-ce qui fait que seulement, il y a seulement nos richesses qui sont mises en jeu? Pour le partage des richesses, on va s'atteler qu'aux richesses de la RDC. Alors qu'en Angola, il y a le pétrole, au Congo Brazzaville, il y a le pétrole, il y a la forêt, en Afrique du Sud, il y a aussi le minerai. Je voudrais demander à votre invité si ce n'est que les richesses de la RDC qui sont mises en jeu, ou il y a aussi des intérêts que la RDC va tirer sur les richesses d'autres pays. Parce que lorsqu'il nous parle que pour nous, l'avantage est que nous avons la pacification de notre pays, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que pour participer à notre pays, on doit mettre en jeu nos richesses. Alors que ces groupes rebelles qui viennent semer la terreur dans notre pays sont, on l'appelle, groupes négatifs. Donc, ils ne sont pas reconnus ni par la communauté internationale, ni par aucun pays de la région ou du continent.
D'accord.
Mais
Merci.
Lui a donné du poids en l'air, favorite en l'air, donnant des différents raisons qu'on ne peut pas comprendre.
D'accord. John Gombo, qu'est-ce que, rapidement.
Oui, oui, rapidement, je voudrais d'abord rassurer à Archange et à Jean qu'il ne s'agit pas pour la RDC de partager ses richesses avec des forces négatives, hein, qui ne sont même pas les acteurs dans la région des Grands Lacs. C'est que des États. Et même avec les États, il ne s'agit pas pour la RDC de partager ses richesses. Il s'agit tout simplement de créer un cadre qui puisse permettre que ceux qui veulent exploiter les richesses de la RDC, que ce soit des Congolais, que ce soit des étrangers, en cela compris les États ou les individus, qu'ils les fassent selon des règles reconnues à travers le monde. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est au fait l'accès à nos richesses qui est à la base de ces conflits.
Alors d'ailleurs, ces richesses, on dit que nous sommes un pays, c'est des scandales géologiques, nous avons pas mal de richesses, mais le peuple est toujours vit dans la misère. Vous avez suivi cet auditeur de Lubumbashi qui parle des taux de chômage. Combien de personnes aujourd'hui travaillent? Les jeunes n'ont pas d'emploi, il n'y a pas des salaires décents, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, l'entrepreneuriat qu'il faut promouvoir. Donc par rapport au développement économique, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de choses à faire. Je suis d'accord avec Serge Mapinda en ce qui concerne la promotion de l'économie. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais, en passant, saluer les projets îlots de stabilité promus par la MONUSCO. C'est là dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà aussi un autre chemin. Parce qu'aujourd'hui, développer la RDC n'est pas seulement, comment dire, l'apanage du seul pouvoir public. Il y a, et d'ailleurs actuellement, ce n'est plus l'argent public qui développe les nations, les pays, c'est l'investissement privé. Donc il faut créer un cadre qui puisse permettre que l'argent privé rentre dans les pays et puis puisse promouvoir les développements et de fait en cause, on va arriver donc à résorber le chômage des jeunes, à créer du travail, ainsi de suite. Donc ce cadre-là, il y a des efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il y a aussi un cadre plus large qui concerne l'accord cadre d'Addis Abeba, et en cela que l'accord prévoit la possibilité de pouvoir promouvoir des projets intégrateurs du point de vue économique à travers la région.
Et vous avez tout à l'heure cité parmi dans le domaine de l'énergie, il était prévu de construire la centrale de Ruzizi 3, l'exploitation du gaz méthane. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Nous savons que le lac Kivu par exemple est plein de gaz, mais qui n'est pas exploité.
Oui, il n'est pas exploité du côté congolais. Les Rwanda a déjà avancé, oui. Mais comme je vous ai dit ici, il y a un point culminant par rapport à tous ces projets. Ce point culminant, ça sera février 2016. En février 2016, la RDC et les pays voisins vont se retrouver à Kinshasa avec la somme de tous ces projets, les 24 projets, qui vont être présentés aux investisseurs privés pour qu'ils puissent injecter les financements nécessaires pour relancer.
Donc, en février 2016.
Février 2016.
C'est un forum
Oui, c'est le forum sur l'investissement public-privé
dans
la région des Grands Lacs.
D'accord. On va terminer avec Mumbere de Beni, au Nord Kivu. Mumbere, bonjour. Mumbere, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Mumbere.
Bonjour.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ma question, je vois que ces accords sont à l'intérêt de nos voisins parce que l'RDC n'a jamais attaqué les voisins, mais c'est les voisins qui nous attaquent au Congo.
D'accord, merci. John Gombo.
Oui, moi je comprends, hein, oui. La préoccupation de ses compatriotes du Nord Kivu, mais cela dit, je pense qu'aujourd'hui, les conflits n'est plus à l'état où il était il y a quelques années de cela. Aucun pays des Grands Lacs ne peut plus se permettre certaines libertés constatées. Hein. c'est-à-dire envahir l'autre avec des troupes, des troupes régulières, ainsi de suite. Aujourd'hui, plus personne ne peut oser faire ça. Donc c'est quand même une avancée. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire par rapport à cela, mais c'est des avancées qu'il faut consolider.
Bien, donc vous annoncez déjà la tenue d'un forum économique qui va regrouper tous les pays des Grands Lacs en février 2016 ici à Kinshasa, avec les investisseurs privés, voilà, donc ils vont présenter des projets.
Les projets existent déjà, les projets ont été identifiés par les experts par rapport aux intérêts transversaux dans la région des Grands Lacs. Ces projets seront donc mis en présence des investisseurs venus du monde entier pour qu'ils y mettent l'argent et qu'ils fassent développer la région des Grands Lacs.
Bien, John Ngomboa, chargé de communication au mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, merci.
Merci.
Merci.